Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
J'ai demandé en fait de rester à Casa parce que moi je suis originaire de Meknès. Et donc, et rester là à leur charge, parce qu'au début, lorsque j'ai commencé, j'étais sur zéro chiffre d'affaires. C'est eux qui me supportaient. Ma toute première expérience, dans le monde professionnel, c'était mon stage d'initiation. Mon père est prof au lycée. J'avais pas d'entrepreneur dans ma famille autour de moi, donc j'avais pas quelqu'un qui va me donner en fait l'envie.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Malek El-Melouki, il est CEO de Relevant, il est social media expert, son dada entre autres, le marketing de contenu. On retrace son parcours aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Job Story. Malek El-Melouki, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup. Bonjour déjà. Très ravi d'être aujourd'hui présent parmi vous. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Bah, tout le plaisir est pour moi. Malek, alors avant de parler peut-être de Relevant, de sa mission, etc., ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas dans l'univers professionnel, que ce soit des stages, peu importe, juste votre première, on va dire entre guillemets, intégration dans l'univers professionnel. Comment ça s'est passé? Vous avez fait quoi, etc.?
Ma toute première expérience dans le monde professionnel, c'était mon stage d'initiation dans un groupe immobilier. Et donc c'était un stage pour 2 mois dans l'été. Et c'était pas très intéressant à mon avis comme expérience, parce que c'était une structure qui est très rigide, il n'y avait pas vraiment beaucoup de un champ d'intervention qui est vraiment intéressant, mais quand même ça reste la première expérience où on découvre comment ça se passe dans le milieu professionnel, même si c'est une grande structure, mais ça reste une première expérience intéressante.
C'est vrai que des fois, même si on n'en garde pas forcément, on va dire, un bon souvenir, mais comme vous l'avez dit, ça reste quand même une première expérience. Et des fois, même dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise ou confortable, ou voilà, c'est pas forcément notre univers, mais on tire quand même des leçons, on apprend des choses. Donc, je pense que voilà, toute expérience est bonne à prendre.
Parce que une mauvaise expérience, c'est aussi un acquis, parce que ça te donne une idée par rapport aux choses à ne pas faire, à ne pas refaire, à des choix qui n'ont pas été peut-être réussis. Et donc c'est un acquis très important.
Bien sûr, et on sait aussi ce qu'on n'aime pas, et ça c'est très important.
Exactement.
On se dit, si jamais je retombe sur la même chose, je dis non.
Exactement, ça c'est ça.
Voilà,
c'est
donc ça aussi c'est un apprentissage. Malek, et comment se sont enchaînées les choses pour vous? Donc après ce stage, vous en sortez un petit peu, on va dire, pas très très motivé en quelque sorte. Comment se sont enchaînées les choses pour vous par la suite?
Exactement. Donc après cette expérience, j'ai décidé que mon stage suivant soit dans une structure qui est un peu moins grande, un peu flexible. L'essentiel pour moi, c'était d'être très proche des preneurs de décision, on va dire du manager ou bien du founder de la boîte. Et donc j'ai fait mon stage chez un cabinet qui a été fondé par mon professeur, donc à l'ISCAE. Et donc on était très proches. Et donc je travaillais directement sur des missions avec son assistance, bien sûr. Mais c'était beaucoup plus intéressant, malgré que sa boîte était petite. Mais en termes d'apprentissage, c'était vraiment très intéressant en termes d'expérience. J'étais en contact avec les clients, je travaillais directement sur les dossiers, etc. Et donc, c'était très intéressant.
Je pense que vous aviez besoin peut-être de plus d'espace et d'espace de manœuvre, en fait. Parce que je pense que la première expérience, peut-être, c'était un peu restreint. Comme vous l'avez dit, c'était rigide. Donc, vous n'aviez pas forcément l'espace nécessaire pour pratiquer un petit peu ce que vous avez appris peut-être lors de vos études ou ce que vous aimez, ce qui vous passionne, etc. Et ça, ça peut être frustrant, d'ailleurs, pour beaucoup d'étudiants qui se reconnaîtront, j'imagine.
Exactement, parce que déjà lorsqu'on vient de commencer, on a déjà cette peur, ce syndrome d'imposteur, entre guillemets, on se sent que voilà, on n'est pas très professionnel, on n'a pas nécessairement le bagage nécessaire pour intervenir sur quoi que ce soit. Mmh. Et donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous rassure et qui nous donne cette liberté d'intervenir, de proposer, d'échouer peut-être. Mmh. Et donc voilà, c'était très intéressant pour moi.
Qui nous fasse confiance aussi, c'est hyper important. Parce que,
c'est très important.
Quand on sort d'école, généralement, on n'est pas... On a un petit peu peur de l'univers professionnel, que ce soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, peu importe. Et on a tous d'ailleurs jusqu'à notre retraite, besoin de personnes autour de nous qui croient en nous, qui croient en nos compétences, qui nous donnent l'espace nécessaire pour mettre en pratique ce qu'on connaît, notre savoir. Et ça, c'est hyper important de le souligner aussi, peut-être pour les jeunes qui vont intégrer l'univers professionnel dans pas longtemps, dans quelques années, dans quelques mois. Il faut leur tendre la main et ne pas juste leur demander de faire des photocopies. Et voilà, il faut vraiment leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils fassent leurs preuves.
Exactement, mais parfois, en fait, il faut bien choisir, comme je viens de dire, que pour les jeunes qui nous écoutent maintenant, qui ont besoin en fait, de trouver des stages, je leur conseille de trouver des boîtes qui sont très flexibles, que ce soit des startups, des petits cabinets, des même si la charge va être un peu en fait
plus importante,
mais exactement, mais l'objectif déjà c'est l'apprentissage. Et c'est dans ce genre de structure on apprend le maximum.
C'est vrai qu'on apprend le maximum si on est ouvert et curieux, bien sûr, parce que dans votre cas, vous aviez envie de découvrir des choses, de mettre en pratique ce que vous connaissez, ce que vous aimez. Il y a d'autres cas de figure. Voilà, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui préfèrent juste remplir l'expérience stage sur leur CV et pas forcément mettre la main à la pâte. Donc, c'est chacun, finalement, son histoire, chacun ce qu'il recherche, en fait.
Exact. Exactement. Exactement.
Et à part les stages, Malek, est-ce que vous êtes passé des stages à Relevant ou est-ce qu'il y a eu un petit passage avant ?
Non, en fait, après donc mon dernier stage, c'était mon stage PFE, dans une boîte de consulting. Et donc, je me suis lancé directement en entrepreneuriat. J'avais aucune expérience, franchement, dans le... expérience professionnelle dans le cadre salariat avant de l'event.
D'accord. Et l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose... Parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de personnes dans Job Story. Il y a plusieurs histoires, plusieurs façons de faire, plusieurs façons de voir les choses. Il y a des personnes qui démarrent par le salariat pendant quelques années, qui switchent vers l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui démarrent directement dans l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui restent dans le salariat. Voilà, chacun son histoire, chacun sa façon de faire les choses. Est-ce que l'entrepreneuriat, pour vous, Malek, ça a toujours été une évidence ? Est-ce que plus jeune, peut-être, quand vous étiez vraiment, on va dire plus jeune, enfant, est-ce que ça a toujours été quelque chose qui vous passionnait, que vous aviez envie de faire, l'entrepreneuriat ?
Franchement, non. J'avais jamais une idée claire. En fait, je changeais chaque année, en fait, mon projet professionnel, parce qu'en fait, j'avais rien comme base concrète pour m'inspirer, pour décider. Donc, je ne savais pas comment ça se passe exactement. Mon père est prof au lycée, j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille autour de moi, donc je n'avais pas quelqu'un qui va me donner en fait l'envie. Mais au fur et à mesure que j'ai évolué, à l'école, à l'ISCO, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs dans des séances d'information Et ça, parmi les choses que j'appréciais en fait à l'école, on recevait très souvent des entrepreneurs ici. Et donc, et ça, vers ma dernière année, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et découvrir en fait le potentiel que au Maroc, en fait, d'entreprendre au Maroc. Et c'est comme ça que je suis décidé de me lancer directement. Et c'était pas facile, bien sûr.
Bien sûr.
Mais la raison principale pour laquelle je me suis lancé directement, parce que j'avais une conviction. En fait, c'est pas une conviction, c'est quelque chose que j'ai remarqué, une sorte de pattern que j'ai remarqué parmi les entrepreneurs avec qui j'avais parlé. C'est en fait cette question de l'échec. Une seule chose en commun, comme tu viens de souligner, Karima, chacun a son histoire, il n'y a pas une one best way, mais chacun doit passer nécessairement, dans le cas de l'entrepreneuriat, par l'échec.
Ouais.
Et donc je me suis dit, si je dois forcément passer par l'échec, quelle est la période où je peux échouer le maximum, mais je serai flexible. Et donc c'était naturellement la réponse, c'est maintenant tout simplement, parce que j'ai pas d'engagement, j'ai pas de charge. Et j'ai en fait cette curiosité, cette naïveté en quelque sorte pour échouer et réessayer.
Ça c'est une très bonne chose aussi, c'est une bonne façon de voir les choses entre guillemets, parce que comme vous l'avez dit, voilà, il y a des problèmes. Par exemple, des fois, quand on a des charges, quand on a des enfants, une famille, etc., des responsabilités, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a des gens, malheureusement, qui restent toute leur vie dans le salariat parce qu'ils ont peur de se... entre les deux, c'est-à-dire entre le salariat et l'entrepreneuriat, ils ont peur de cette phase parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs proches, de cette période d'incertitude où on ne sait pas forcément vers quoi s'orienter, ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que c'est une bonne façon de voir les choses, se dire, allez, j'échoue maintenant, comme ça. Et il se peut que vous n'échouez pas, hein, parce que des fois, voilà, ça peut marcher du premier coup. Hein. La vie est assez surprenante.
Non, franchement, dans le cas d'entrepreneuriat, l'échec est inévitable.
Ouais.
Parce que c'est le rapport à l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est très différent avec les autres, en fait, que ce soit les études ou bien même le salariat. Parce que dans les autres contextes, on essaie de minimiser l'erreur au maximum. On essaie d'éviter l'erreur. Alors que la question au niveau entrepreneurial, c'est pas éliminer l'erreur, c'est comment est-ce que je peux échouer d'une manière rapide avec le moindre des coûts et avec le plus de leçons possible. Donc, et cette capacité qu'on développe au fur et à mesure dans notre expérience en entrepreneuriat. Les gens les plus, en fait, les entrepreneurs les plus accomplis, les plus réussis, ils échouent chaque an, chaque jour, chaque mois, mais ils échouent différemment. Ils échouent, donc ils ont une certaine résilience, ils testent leurs idées d'une manière beaucoup plus efficace. Et c'est ça la compétence clé d'un entrepreneur. C'est comment est-ce que je peux échouer rapidement.
Et que ça ne m'impacte pas dans le sens où je me dise « Ah non, c'est bon, je vais aller signer un CDI quelque part parce que ce n'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat. » Voilà, juste persévérer et être flexible aussi.
Exactement, c'est ce rapport à l'échec qui est très important.
Et donc, vous lancez Relevant. Parlez-nous un peu de cette aventure entrepreneuriale. Quelle est la mission de Relevant? Pourquoi avoir ressenti le besoin ou la nécessité de vous lancer dans cette aventure, Malek?
Alors, Relevant, déjà, c'est une agence spécialisée dans le marketing de contenu. On met le focus surtout sur le contenu organique. Déjà, on a commencé l'agence il y a plus de, on va dire, il y a presque 3 ans. Mais on était une agence digitale un peu classique, donc 360, on fait du tout des sites web, la publicité payante, etc. Mais donc, je me suis dit, je dois me spécialiser et être parmi les meilleurs dans une seule chose, c'est mieux que d'être bon ou moyen dans tous les spécialités. Mmh. Et donc, et j'ai vu l'opportunité aujourd'hui que, bon, j'ai remarqué que pourquoi, je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce que certains contenus deviennent virales? On a on trouve des millions de vues, des centaines de milliers de vues sur des vidéos qui ne sont pas forcément dans des comptes qui sont beaucoup followés. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait une petite recherche sur quelques mois. J'ai trouvé en fait des ouvrages qui ont été écrits récemment sur les réseaux sociaux, l'algorithme. Et j'ai compris le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes ont beaucoup changé. Ouais. Ça a passé d'un algorithme qui est en fait nommé par les plateformes le social-based interest graph. Le social-based graph, donc on vous propose le contenu en se basant sur les gens que vous followez, vos amis, etc. C'est ça, comme était Facebook il y a longtemps. Mm-hmm. Et le interest-based graph, le nouveau algorithme qui a été ramené par TikTok en premier lieu, c'est on vous propose le contenu non pas parce que vous followez les comptes, un certain compte, mais parce que vous êtes intéressé par des sujets.
Ouais.
Et donc, on vous propose du contenu dans des tables, par exemple le For You page sur TikTok, les Reels. Vous allez remarquer que vous ne followez pas ces pages.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, ça, c'est du trafic gratuit, en fait. Si vous faites du contenu qui est bien ciblé, qui est intéressant, qui est engageant, qui incite les gens à commenter, à partager, vous allez pouvoir en fait vous faire des millions de vues gratuitement, même si vous avez zéro follower. Mm. Et donc on a commencé avec des clients, des petits clients, pour tester le concept. On faisait ça gratuitement au début parce que c'était pas quelque chose qu'on maîtrisait.
Ouais.
Et en fait, mon premier client, c'était une boutique de moto à Bouskoura, qui venait d'ouvrir. En fait, on a fait dans l'espace de 3 mois à peu près 13 millions de vues entre TikTok, Instagram, YouTube Shorts et
excellent.
Facebook. Mm-hmm. Et ça a vraiment... Il n'a jamais eu besoin de faire la publicité payante après. Après, on a passé à le deuxième client, troisième. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec une marque, par exemple, un de nos clients, c'est une marque internationale de prêt-à-porter pour hommes, de luxe, d'Amatune. Donc, on a réussi, en fait, dans l'espace de 2 mois, à ramener 8 millions de vues organiquement, et on a réussi à toucher le cœur de cible, les hommes entre 35 et voilà, 55, 60.
Mmh.
Et on a prouvé, en fait, et ça a été un levier véritable pour la croissance de leur chiffre d'affaires.
Excellent.
Vraiment, aujourd'hui, c'est pas que des vues, mais surtout un levier véritable parce que le but final, c'est pas les vues, c'est accroître le chiffre d'affaires.
Bien évidemment.
Voilà, avoir des clients qui retournent au magasin, etc.
Surtout quand il s'agit de marques, bien sûr, le but, c'est de rentabiliser aussi sur ces vues, parce que avoir des millions de vues et que le chiffre d'affaires ne bouge pas, voilà, c'est...
Exactement.
C'est comme si ça ne servait pas forcément à grand-chose. Donc c'est une très bonne chose,
exactement.
Finalement.
Et il y a une deuxième chose que j'aimerais bien souligner.
Oui.
En fait, cette opportunité, ça donne en fait, c'est une opportunité pour les petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, ils sont à pied égal avec les grandes entreprises, parce que si vous faites du contenu qui marche, on ne voit pas forcément la taille de votre entreprise pour juger de votre contenu. Donc, les petites entreprises, les petites marques ont la possibilité aujourd'hui de vraiment, s'ils font un bon travail, ils peuvent même dominer le marché rien qu'avec le contenu organique, ce qui est un avantage, parce que le contenu organique, comme dans l'entrepreneuriat, vous devez échouer pas mal de fois pour trouver le concept qui marche.
Ouais.
Et les grandes structures n'ont pas cette possibilité. Et donc, ils doivent vraiment être très cadrés, scriptés, etc. Et ça ne marche pas dans le contenu organique.
C'est
pour ça qu'on essaie de travailler avec des marques qui ont un leadership qui est ouvert, qui a cette tolérance de risque.
Mm.
Et Et voilà, donc c'est ce qu'on fait.
C'est important. C'est important d'avoir cette vision en commun avec, voilà, les entreprises ou les marques qui font appel à vos services. C'est important d'être sur la même longueur d'onde parce que finalement, c'est un travail d'équipe, entre guillemets. C'est-à-dire, eux croient en votre potentiel et vous, vous croyez également au potentiel de cette marque et donc lui faire gagner en visibilité. Parce que vous croyez forcément aux valeurs, etc. Donc c'est un partenariat finalement voilà, qui porte ses fruits et c'est une très bonne chose. Malek El Mellouki, donc une expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat plus ou moins réussie. Donc petit à petit, étape par étape, l'oiseau a fait son nid en quelque sorte. J'ai une petite question un peu, on va dire, personnel, mais pas trop. Qu'a pensé votre entourage, votre famille, de cette envie d'entreprendre directement, c'est-à-dire ne pas passer par cette case salariat. On sait que voilà, les parents, l'entourage, la famille, etc., ont tendance à nous encourager à avoir une carrière plus ou moins stable avec un contrat, un salaire qui tombe tous les mois, stabilité financière, etc. Donc, comment ça s'est passé pour vous quand vous leur avez annoncé que voilà, vous vous lanciez directement dans l'entrepreneuriat?
Très bonne question. Parce que, en fait, ce point-là, je le considère comme un avantage. C'est parmi les raisons qui m'ont motivé pour me lancer. Parce que j'avais l'opportunité d'avoir en fait, ma famille autour de moi qui me supporte, qui vraiment me faisait aucune pression. Que ça soit, même s'ils ont vraiment beaucoup sacrifié pour que je puisse faire en fait une grande école, etc. Mais lorsque j'ai demandé en fait de rester à Casa parce que moi je suis originaire de Meknès, et donc et rester là à leur charge parce qu'au début lorsque j'ai commencé sur zéro chiffre d'affaires, c'est eux qui me supportaient, qui me payaient en fait le loyer, etc. Donc et j'avais des amis en fait qui voulaient aussi se lancer dans ce premier area et qui faisaient un très bon job, mais c'est justement cette contrainte qui a été un blocage, je dirais injuste, et donc c'est pour ça qu'ils ont raté et ils se sont lancés dans le area directement. Et voilà, donc ils me faisaient aucun blocage et donc j'avais de la chance en fait d'avoir alhamdoulillah. Et voilà, j'en serais toujours reconnaissant en fait de ce sacrifice qu'ils ont fait.
C'est une très bonne chose voilà, d'avoir le soutien nécessaire, surtout quand il s'agit d'entrepreneuriat. Donc, on va dire bravo à vos parents et à votre famille de vous avoir justement encouragé dans ce sens et d'avoir cru en vous. Malek, cette fois, le mot de la fin, c'est quoi votre prochain objectif? On va dire peut-être un rêve que vous avez envie de concrétiser à l'avenir. Ça serait quoi?
Au niveau professionnel?
Niveau professionnel.
En fait, notre objectif dans le event, c'est en fait, c'est instaurer cette mentalité et cette conviction que la publicité ne doit pas être ennuyante et scriptée. La publicité doit être un contenu qui mérite d'être consommé. C'est parce que on est là pour vendre. On ne doit pas mettre l'effort de créer un contenu que notre audience aimerait bien regarder et juste pour en fait le plaisir. Et ça, c'est ce qui va créer dans le futur la différence entre les marques qui vont rester et les marques qui vont disparaître.
Malek El Mellouki, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, c'est un énorme plaisir. Merci beaucoup de me donner en fait, la chance de partager mon histoire. Et j'espère que ça peut en fait... aider quelqu'un qui est en fait qui est indécis, qui hésite en fait. Et voilà, merci beaucoup à vous.
Tout le plaisir est pour moi, Malek. À bientôt.
À bientôt, merci.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Stories est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.